écoutez bien Radio Canus en 2.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info de ce lundi 7 juillet 2014. Et oui, c'est le mois de juillet, c'est les vacances, et le Canu Info est toujours là, puisqu'il se passe des choses dans le monde, il faut en rendre compte. Avec Jean-Pierre dans les studios, Robert en duplex, pour aborder tout d'abord la rubrique internationale. On ouvre sur quoi, Robert ? Un sujet de prédilection ?
Non, pas de prédilection, d'inquiétude non plus, mais n'est pas en trop bon état.
On va parler de
la partie occidentale, parce que on peut pas en dire autant forcément des continents latino-américains et même américains du Nord, ni même asiatiques. Bon. En Europe et par rapport au passé colonial des pays d'Europe, eh bien, on a l'impression que tout va mal. Et comme tout va mal au Moyen-Orient, ça veut dire que c'est toute la planète qui irait mal. Allez, ensuite, il y a effectivement, on va en parler, l'aspect de ce petit, on va dire, ce qui subsiste comme ça de l'époque. De confrontation qu'on appelait la guerre froide avec ce qui se passe en Ukraine, mais en fait qui est devenu simplement un débat interne aux ambitions capitalistiques des uns et des autres, ce qui ne veut pas dire que ce soit pas aussi dangereux que la précédente confrontation.
Bon ben voilà,
donc pas de sujet très précis.
Mais si tu as choisi un sujet, c'est l'Ukraine. On va commencer par l'Ukraine. Où on en est ce soir ? Eh ben, on en est que Porochenko a entrepris de reprendre la main sur tous les territoires de son pays, hormis la Crimée, là je crois qu'il en a fait son deuil, et donc d'envoyer des forces militaires attaquer les milices pro-russes qui s'étaient constituées dans un certain nombre de villes. En fait, ils se replient tous sur une ville qui est Donetsk, une ville d'un million d'habitants. Ils ont abandonné à la fois l'autre ville importante, 110 000 habitants, Slaviansk, sans combattre, mais en subissant des bombardements dont on fera le bilan, je pense, dans les jours qui viennent. Donc du coup, ils sont partis, et Porochenko est très content parce qu'il a pu remettre le drapeau sur la mairie de Slaviansk. Maintenant, tout ça n'est pas fini et il sera beaucoup plus dur de réduire les opposants dans la ville de Donetsk, d'autant plus que ces opposants sont un peu divisés entre eux. Ceux qui se replient, 2000 hommes, il y en avait à peu près, on estime, 5000 dans la ville d'installer, et ils ne sont pas entièrement d'accord entre eux, ni même avec une troisième milice qui est aussi sur les lieux. Donc des péripéties à venir, comment est-ce que le pouvoir va... S'il a la volonté d'aller au bout et de reprendre la gouvernance de toutes ces villes, va s'y prendre pour réduire cette ville-là sans faire trop de dégâts dans les populations civiles aussi, parce que bombarder, c'est facile avec des avions, mais on touche rarement les cibles militaires. Par contre, on touche beaucoup les cibles civiles. C'est pas Bachar el-Assad qui va vous dire le contraire avec tout ce qu'il a pu bombarder en Syrie. Voilà, tu avais peut-être quelque chose à ajouter à cette situation militaire,
oui,
si l'on peut dire.
Oui,
aujourd'hui.
On est un peu sur le retour à la case départ, c'est-à-dire un oligarque a succédé à un autre oligarque, simplement que celui-ci il s'est inscrit dans une logique plus propre sur soi, quoi, c'est-à-dire acceptable par les Occidentaux qui donc ont ouvert la porte de l'Union européenne à Porochenko, même si avant il l'avait également ouvert à son prédécesseur, mais c'était quand même très 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 sulfureux à l'époque. Le bilan n'est pas encore fait, mais il est évident, oui, comme tu l'as dit, je crois que pour l'instant, il semble qu'il y a une reconnaissance par les partis, assez bien l'Occident que la Russie, du fait accompli concernant la Crimée. Bon, provisoirement ou pas, on ne sait pas. Mais toujours est-il que, visiblement, dans l'accord qui va bientôt être établi, la Crimée ne sera pas impliquée. Bon, reste que Poroshenko a promis des réformes institutionnelles qui permettront aux Ukrainiens de l'Est d'élire leur propre gouverneur au niveau des différentes entités qui existent déjà, mais qui pour l'instant étaient sous contrôle de Kiev et qui le sera mais dans un système plus fédéral. Alors, Poroshenko l'a promis, il semble que Poutine veut lui faire confiance malgré les tensions qui subsistent. Poutine a dit qu'il était déçu de voir que Poroshenko voulait faire la guerre, mais c'est de bon ton de dire ça si en fait préparer la guerre, ça ne veut pas dire la faire, c'est peut-être au contraire se préparer à faire la paix. Bon, on en est là, il y a l'aspect économique. Aussi bien pour Kiev que pour Moscou, il est nécessairement une bonne chose que le plus rapidement la machine économique va repartir au profit des aussi bien de l'Ouest que de l'Est. Parce que c'est une région industrielle riche et que Kiev aussi doit faire des concessions parce que Kiev a besoin des dividendes qui peuvent tomber du côté de Donetsk.
Voilà, autre sujet qu'il convient d'aborder ce soir, c'est ce qui se passe en Palestine occupée. Donc avec ces incidents, avec des péripéties multiples, on peut les rappeler rapidement. Donc il y avait eu l'enlèvement il y a maintenant quelques semaines presque, de ces trois jeunes Israéliens qui ont fini par être trouvés morts, donc assassinés. Suite à ça, au moment où les obsèques avaient lieu, il y a semble-t-il, des extrémistes juifs qui ont décidé de se venger, qui ont attrapé un jeune Palestinien de 16 ans, qui l'ont battu et puis tué, brûlé vif, semble-t-il, d'après ce qu'on nous dit des autopsies. Donc tout ça a entraîné évidemment des mouvements de ressentiment, de révolte, d'attaque des militaires. On a commencé à parler peut-être d'une troisième intifada qui démarrait là. En fait, il semble que les incidents soient bien localisés. Jérusalem-Est est dans quelques villages. Et puis en plus, avant-hier, un autre jeune de 15 ans, mais ils n'ont pas eu de peau là, les militaires israéliens, parce que celui-là était de nationalité américaine, cousin de celui qui a été tué, qui se trouvait être là depuis peu de temps, a été arrêté, battu par la police. On a pu voir les photos, il n'avait pas une belle tête après tout ça. Et du coup, ça a aussi fait un petit peu de remue-ménage. Les Américains ont protesté, le consul lui a rendu visite, autrement dit, s'en est mêlé. Et donc, voilà un petit peu où on en est ce soir. Pendant ce temps-là, les roquettes que les Hamas depuis Gaza envoient en Israël continuent de pleuvoir un petit peu. Il y en aurait eu une vingtaine d'envoyées ces jours derniers. Du coup, l'aviation israélienne a riposté et on parlait de 7 combattants du Hamas tués. Alors on ne sait pas s'ils ont été tués par l'aviation ou si un tunnel s'est écroulé sur eux. Il semble que ce soit plutôt ça. Maintenant, peut-être que le tunnel s'est écroulé sous l'effet d'une bombe israélienne qui tombait au-dessus. Les tunnels dans le sable ne sont pas très profonds et pas forcément très solides. On sait qu'il y a tout un échange commercial qui se fait avec ces fameux tunnels. Pendant ce temps-là, côté israélien, Lieberman, extrême droite, ministre des Affaires étrangères israélienne, réclamait la reprise en gros de l'occupation de Gaza. Netanyahou, qui n'a rien d'un temps, ne voulait peut-être pas s'engager jusque-là sur une affaire comme ça. Et du coup, Lieberman a décidé de rompre la coalition qu'il avait fondé avec le Likoud au niveau du Parlement, mais Pafou conserve son poste, il attend peut-être qu'on le vire, quoi. Et voilà, donc des répercussions jusque dans la vie politique israélienne de cette affaire. Quelques commentaires.
Qui pour l'instant n'a pas permis à Israël, qui espérait produire une rupture entre l'OLP et le Hamas. Bon, cette rupture n'est pas intervenue. Les discussions pour la formation d'un gouvernement commun ou deux se poursuivent. Sur la genèse des événements, il y a effectivement un fait précis, c'est-à-dire que les jeunes Israéliens assassinés l'ont été en territoire occupé de Cisjordanie. Donc le Hamas dit, vous savez, peut-être le Hamas est pour quelque chose dedans, mais je veux dire, il y a d'autres groupes suffisamment nombreux que le Hamas ne contrôle pas, surtout en Cisjordanie, et que d'ailleurs l'OLP non plus ne contrôle pas, et qui sont à l'origine de ces meurtres. Et donc le Hamas avait tout de suite, dès que des attaques de représailles avaient été faites sur Gaza, puisque je me souviens pratiquement 2-3 jours après ce meurtre des 3 Israéliens, des tirs ciblés ont tué plusieurs Gazaouis. Et donc, ça, effectivement, donc l'enchaînement est arrivé, et de nouveau, il y a eu donc des tirs de roquettes. Là encore, on sait que à la fois les groupes sont contrôlés, si on veut, par le Hamas, mais loin s'en faut qu'ils puissent contrôler tous les tireurs de roquettes. Mais pour Israël, il n'y a qu'un responsable de tout ça, et donc il n'y a qu'un ennemi, c'est le Hamas. Et alors après l'assassinat, et dans les conditions atroces du jeune Palestinien, eh bien, effectivement, toujours pareil, en Cisjordanie, la révolte gronde, et on n'est pas sûr qu'elle puisse s'arrêter, sauf si effectivement Netanyahou, semble-t-il, sur la base des recommandations américaines, se voit contraint de stopper toute escalade dans la confrontation et toute remise en cause de ce qui a pu se sceller provisoirement entre le Hamas et puis l'OLP. Et c'est une situation effectivement on le sent toujours, on voit bien. On voit quand les Américains exercent une pression et quand ils ne l'exercent pas. C'est très clair. On voit très bien ce qui se passe, comment Netanyahou réagit et comment, dans son gouvernement, l'extrême droite, effectivement, estime que Netanyahou n'a pas à se plier aux injonctions américaines, fussent-elles d'une grande douceur.
Voilà, autre sujet, on va parler un petit peu aussi de l'Irak, où le nouveau calife a pris la place du calife, et Al-Baghdadi, donc, dans une vidéo, apparaît...
Ça faisait pas des nombreux morts et beaucoup de gens malheureux, on en rirait presque, hein, mais...
Pas qu'on en rit, mais je dis ça parce qu'en fait, il s'est autoproclamé, hein, donc il a dit « je suis le calife et j'ai été désigné, par qui, on sait pas, mais en tous les cas, tout le monde doit lui obéir autant que vous obéissez à Dieu. » Ça, c'est
les musulmans, hein, nous, oui, nous encore...
Les chiens d'infidèles, ils n'auront pas... Ils comptent pour du beurre. Hein,
nous,
ça,
on est condamnés et on est voués aux gémonies à la mort.
Donc là, on parle des musulmans, là, bien sûr. Donc... Mais je pense qu'il se fait quand même un peu des illusions, cet homme-là, parce que ni Maliki, bien sûr, qui s'obstine, ni non plus l'Arabie Saoudite et les autres n'ont envie de le voir. D'ailleurs, il y a eu ces manœuvres, je ne sais pas si tu as su, assez curieuses, de l'Irak qui a libéré ses postes frontières vers l'Arabie Saoudite, en se disant, et l'Arabie Saoudite de son côté qui a massé 40 000 hommes armés à la frontière, Maliki se disant, c'est très bien puisque je leur laisse le passage libre, comme ça ils vont aller en Arabie Saoudite. sociétés. Et du coup, ben, bon, c'est une bonne manière aussi pour diviser un peu leurs troupes et se débarrasser un peu de la pression qu'ils mettaient sur lui. Bon, c'est des choses militaires, géopolitiques qui se passent, et il faut bien les dire. Et donc, ce groupe qui représente quand même un certain nombre de gens armés avec de l'armement qu'ils ont récupéré à plein d'endroits et avec de l'argent, mène une pression. Maintenant, il semble que Maliki, quand même, a réussi à les contenir un peu. S'ils tiennent Mossoul, ils n'envisagent peut-être pas de conquérir Bagdad. L'armée irakienne a l'air de s'être un peu reprise, peut-être aussi aidée par les Américains sous diverses formes. On sait comment ça se passe dans cette affaire. Pour contenir cette tendance expansionniste de l'armée de la 2IL, comme j'appelle.
On comprend pas bien pourquoi on peut d'un certain point de vue le comprendre, mais je veux dire pourquoi les médias occidentaux et notamment français depuis 3 jours ils mettent presque souvent ça à la une, cette autoproclamation du calife. Alors que c'est d'un ridicule consommé, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, ça fait beaucoup de malheur, mais n'empêche que c'est quelque chose de très rétrograde qui n'a plus du tout sa place, y compris dans les courants les plus obscurantistes de l'islam. C'est bon. Et d'ailleurs. On a vu que dans la région, il y a une espèce de d'accord, on ne va pas dire contre nature, les uns et les autres sont des musulmans, des islamistes. Mais on a vu, par exemple, les chiites iraniens qui vont aider Maliki. Alors, ils ne vont pas envoyer de troupes pour combattre ce calife, mais par contre, ils vont fournir des armes. Alors, c'est du jamais vu, là. On va avoir un accord entre des courants sunnistes et des courants chiistes pour combattre cette intrusion d'un autre siècle dans l'histoire de ce chaos généralisé et provoqué par les Américains et les Occidentaux, hélas.
Mais il y a une logique aussi, puisque le nouveau calife veut les exterminer aussi bien les uns que les autres. Donc, qui s'unissent pour le combattre
on a vu que les Européens seraient, et peut-être les Américains, seraient heureux de l'utiliser s'ils pouvaient effectivement éliminer Al-Qaïda définitivement. Alors on a vu que ça aussi, ça intéresse beaucoup la presse qui dit que cette naissance du califat et de son armée et de l'EIL va permettre de neutraliser définitivement Al-Qaïda et donc clore ce chapitre depuis 2000, chapitre essentiellement lié un peu à l'épouvantable Ben Laden.
Allez, feuilleton à suivre. Tu as un autre sujet que tu voulais aborder aujourd'hui ? Je t'en donne un. Les malheurs des Argentins avec les vautours des fonds de pension. On peut dire en deux mots l'affaire. Hein. Donc, on se souvient que l'Argentine, il y a une dizaine d'années, avait déprécié toutes ses créances dans une situation de crise économique profonde. Il y a des créances donc qui avaient perdu, il restait 5 ou 1% de la valeur. Il y a des petits malins qui les ont rachetés et qui aujourd'hui réclament 40 fois la mise avec l'appui de la justice américaine, toujours prompte à faire la justice chez les autres plutôt que chez elle. En BNP, on sait quelque chose. Et ils demandent donc 832 millions d'euros, compte 48 de payer au terme d'un procès qui, s'il était gagné, s'il devrait l'être, fait que finalement aucun pays dans le monde ne va pouvoir renoncer à ses créances ou les déprécier au risque de se les voir réclamer quelques années après par des requins de la finance. petite affaire en marge, mais qui a une importance pour l'Argentine, ça pourrait les faire replonger dans la mouise.
Juste en face, hein, y a le Brésil, et puis, dans le fond, ce scandale, cette débauche de dépenses financières et qui renforce effectivement les grandes entreprises capitalistes dans le cadre de ce mondial de football, eh bien, il s'est mis en place. Alors, sans doute que les gouvernements du Brésil, je dis les parce que comme c'est un État fédéral et que les décisions souvent ne sont pas forcément peuvent être prises à Brasilia, mais qu'elles sont prises dans les différentes régions et fédérations, eh bien, c'est mis en place. Alors c'est surtout sur les lieux où les stades reçoivent les compétitions. Alors il y a 4-5 stades à peu près, 5-6. Et il s'est mis en place une activité parallèle. Alors elle est en partie contrôlée et en partie non contrôlée et incontrôlable. C'est le tri et la collection et le tri des déchets qui sont liés à tout ce que ces centaines de milliers de gens venus d'ailleurs ou dans les stades ou aux portes des stades jettent un peu partout. Alors, contrôle, enfin, tri des déchets. Alors, il y a effectivement ceux qui ont fait un petit business pour eux-mêmes avec tout ce que on peut penser de l'économie clandestine, de l'économie invisible, mais il s'est mis aussi en place, et ça c'est un peu sous l'injonction là où il y avait du pouvoir central, mais aussi des régions progressistes, mise en place deux coopératives. Et que ces gens qui finalement font de la récupération de déchets, donc mènent une activité écologique, mais pour leur transformation, eh bien, sont aidés à se structurer en coopérateurs. Et bien, ma foi, on ne sait pas si ça va être ça aura un effet très très marginal par rapport à l'ensemble de ce qui se passait au niveau du brassage financier, mais au moins une petite compensation et peut-être un petit plus qui sortira de ce moment dévastateur du mondial de football.
Tu te contentes de pas grand-chose, toi. Donc c'était notre rubrique rien à foutre.
Voilà,
en annexe, je voulais signaler quand même, moi je croyais que nos footballeurs ayant perdu brillamment la coupe, aussitôt rentrés en France, allaient être mis dans des mines de sel en punition pour leur apprendre à jouer mal avec leurs pieds. Eh ben, pas du tout, finalement, les supporters sont contents. Ils perdent et ils sont aussi contents que s'ils avaient gagné. C'est un petit peu curieux comme réaction. Il faut dire que c'est bien orchestré aussi. Il s'agit de maintenir le moral des troupes. Voilà,
oui,
on a peut-être d'autres sujets.
Oui, mais tout a été fait par les médias pour entretenir cette atmosphère. Et ça ressemble aux atmosphères de guerre. Hein. C'était une guerre. Donc il fallait effectivement idéologiquement entretenir le peuple.
Voilà. D'autres sujets, Robert, en international, ou on passe, on fait
non,
une pause
non.
musicale
Ah si, si, peut-être.
Chavarnadze, ça t'inspire rien?
J'ai pas entendu.
Chavarnadze, il est mort?
Oui.
Bon.
C'était l'Union soviétique, comme la Russie ensuite, ont toujours eu de grands chefs de la diplomatie, c'en était un, et actuellement Lavrov c'en est également un. C'est comme ça. Par contre, les Américains n'ont jamais eu de grands chefs de leur diplomatie, parce que je ne sais pas pourquoi. Le poids sans doute financier est trop puissant aux États-Unis pour donner à la diplomatie, à des diplomates, une espèce de carrure. Enfin, si, il y en a eu au moment des guerres, mais c'était encore une autre dimension. Donc, ce que je voulais dire simplement, j'ai noté cette action, je n'ai pas le détail, tu l'as peut-être, c'est Greenpeace en Roumanie qui mène une action contre Chevron, donc la grande compagnie pétrolière américaine, qui cherche dans le sol roumain pour sortir du gaz de schiste. Et alors, des équipes de Greenpeace sont intervenues pour tenter de bloquer Chevron dans cette entreprise. Alors c'est souvent des interventions spectaculaires qui ne vont pas forcément arrêter, mais qui, bien médiatisées, avec une bonne communication, peut être efficace.
Voilà, allez, pause musicale avec Catherine Sauvage qui chante Tachan. On vous expliquera tout après.
Elle est malingre, elle est petite, elle boit de grands verres d'eau bénite. Tout en feuilletant le glossaire des mots interdits par Dieu le Père. Elle coupe, elle mutile ou elle blesse, ici un cœur, là une fesse. Elle est le chirurgien des rois, l'Ambroise Paris sans foi ni loi. Sur le corps, elle porte une bure pour cacher ses trésors absents. Sur le cœur, elle porte une tonsure comme on porte un Saint-Sacrement. La censure, la censure. Elle est le Cerbère des royaumes, l'hydra sans tête et le pogrom. La main de fer et le paillon qui étouffe les révolutions. Elle est le grand inquisiteur, le bûcher purificateur. Et il n'y a pas tellement longtemps de Buchenwald au Ku Klux Klan. Sur le corps, elle porte des souillures de poudre, de terre et de sang. Sur le cœur, elle porte une armure rouillée par la haine et le temps. La censure, la censure. Aujourd'hui, dans la douce France, en an de grâce et de jouvence, la revoilà qui pointe son nez, qui roule des yeux sous son bonnet. La revoilà qui prolifère, qui pudibonde, qui vitupère. Contre une poignée d'objecteurs qui déshonore ses champs d'honneur. Sur le corps, elle porte des dorures pour mieux endormir les enfants. Et sur le cœur, des moisissures de prisons froides et de couvents. La censure, la censure. Faudrait censurer le striptease, la presse du cœur et les faillots. Faudrait trouver la terre promise ailleurs qu'aux conneries des radios. Faudrait qu'un séjour en muselle les battleurs et leurs bagouts. Faudrait qu'un séjour les bordels reviennent faire un petit tour chez nous. Faudrait enfin qu'on me réponde, qu'on me convainque, qu'on me rassure que je ne suis pas la seule au monde à vouloir qu'un jour on censure.
Catherine Sauvage interprétait Tachan, la censure, un sujet qui se trouve être d'actualité à Radio France, et ça méritait d'être pointé. Pour l'instant, vous avez de la chance, il n'y a pas de censure à Radio Canu. Radio France, ben oui, Weinstein, avec son émission de minuit, après 29 ans de bons et loyaux services, devait faire la dernière vendredi ou samedi, je ne sais plus. Toujours est-il qu'une heure avant, M. Poivre d'Arvor, directeur de la chaîne, lui a fait savoir que l'émission qu'il avait préparée, où il tirait un bilan personnel, paraît-il, de toute cette activité, était interdite de diffusion. C'est assez fort de café, ça, quand même. Et puis, par ailleurs, toujours sur Radio France, France Inter cette fois, Mermet s'en reprend une, après avoir été changé de créneau horaire. Voilà qu'il est question maintenant de le ramener à une heure par semaine, visiblement, alors que le public est très enjoué par ces émissions. Visiblement, il y a une volonté politique, là aussi, de restreindre cette liberté d'expression. Faut-il voir la patte de M. Valls ou de quelqu'un d'autre ? Je vous laisse à vos supputations. Nous avons ainsi abordé la rubrique nationale de ce Canu Info du 7 juillet 2014 sur le 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, avec Jean-Pierre dans les studios et Robert en duplex. Mais il y a d'autres sujets à traiter, Robert.
On peut, oui, c'est du tout chaud, c'est à saluer en ce moment. C'est en France, au Palais d'Iéna, c'est le lieu où se réunissent les gens du Conseil économique et social. Et donc, il y a cette troisième conférence sociale. On a eu droit, il y a quelques minutes, à un discours de François Hollande, un discours de très très autosatisfait. Alors il n'avait pas le sourire, enfin j'ai écouté quelques éléments, j'ai pas tout écouté, pas d'humour mal placé, mais du contentement, et contentement tout en disant ben oui, le chômage a augmenté, mais nous avons fait des choses, et il a énuméré les petites bricoles qui, effectivement, d'ailleurs, pour certaines, ne sont pas encore dans les tuyaux, pour prendre une expression à la mode, et ou qui même l'étaient, mais en sont sortis, comme par exemple la pénibilité, donc, qui ne verra le jour que l'année prochaine, même à la fin de l'année prochaine, parce qu'il est évident que le patronat va attendre la dernière heure pour le mettre en route.
Ils ont même demandé un report d'un an.
La fin de 95 pour démarrer ce thème du décompte de la pénibilité, qui permettra effectivement de d'aider beaucoup de gens à sortir du chômage, ou du moins à trouver de quoi survivre. Voilà, alors on a remarqué effectivement, bon, il a dit qu'il a pris acte que tout le monde n'était pas là, comme ça, hein, presque sur un ton indifférent. Bon, alors que c'est la CGT et Force ouvrière qui, dès demain, vont boycotter cette troisième conférence sociale.
Voilà, qu'est-ce qu'il faut dire d'autre ? Ben que ça va durer deux jours, et que Hollande, ce soir, il a annoncé, alors de réunion en réunion, hein, c'est toujours facile, pour la rentrée, un tas de nouvelles réunions avec le patronat pour négocier sur l'apprentissage, sur l'embauche des chômeurs longue durée dans des structures d'apprentissage. Là, on se gratte un peu la tête en se disant qu'est-ce qu'ils vont pas inventer pour arriver à faire des usines à gaz qui vont pas fonctionner. Apprentissage, ça va bien pour les gamins, je vois pas bien un type de 50 ans se mettre en apprentissage, mais enfin bon, et si ça résout le problème du chômage, pourquoi pas, mais enfin si vous y croyez, ben vous me faites signe. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Ben, Solidaire a fait une déclaration aussi en disant que, quant à eux, pour une conférence pour l'emploi sans social et sans emploi, ce serait aussi sans leur participation.
Oui, il faut aussi ajouter que depuis deux jours, Manuel Valls, il va fort dans les déclarations, effectivement, de recentrage à droite, chose qu'il n'avait pas encore fait jusqu'à présent, avec des expressions comme du genre, mais ce sont les entreprises qui décident, et l'État se doit d'accompagner les entreprises. Alors c'était une redéfinition, mais alors on peut dire cinglante, du pacte de responsabilité, et c'est sur ces bases comme ça. Et puis on a eu Sapin. Alors lui, Sapin, sa déclaration un peu colbertiste, et il a dit de la finance et de la bonne finance. Oui, oui, bien sûr. Alors, la bonne finance, qui quand on se souvient comment François Hollande voulait s'en prendre justement à la finance, qui était mauvaise, mais d'un seul coup, voilà que il y aurait de la bonne finance. Alors,
il a même dit
avec la bonne finance.
Il a même dit que c'était sa meilleure amie.
On voit les dégâts, par contre.
Il a dit que c'était sa meilleure amie. Et puis ça me rappelle. Ça me rappelle les patrons, tu sais, quand j'en ai connu comme ça, ils aiment beaucoup que les travailleurs, les employés critiquent, mais il faut faire des bonnes critiques. Eh bien, la finance,
oui,
c'est pareil.
Oui,
il faut faire de la bonne finance. Voilà, celle qui rapporte à ceux qui en ont déjà plein les poches.
J'ai cité Colbert, mais faites-moi de... Je ne sais plus quoi, il y a une expression comme ça qui date de la... les grands monarques comme Richelieu ou Colbert ou je ne sais lequel. Allez. Et enfin, tout ça, c'est bien triste, oui.
On parle un peu social, enfin social, oui, oui, social. L'histoire du déraillement de la SNCF de Savigny-sur-Orge, il y a un an, on a le bilan. Et bon, je sais pas, j'entrevois quelles conclusions vont en tirer les directions. 200 anomalies sur la voie qui n'étaient pas réglées. Et on met en cause, bien sûr, RFR. La vérité de tout ça, c'est que si on n'avait pas scindé RFR et la SNCF, et si on avait donné aux gens les moyens non seulement d'expertiser, mais de réparer ce qu'ils voyaient, on n'en arriverait pas là. Et il semble que cette ligne-là est un exemple, mais qu'il y en a plein d'autres. On voit là le délabrement du service public organisé au profit du privé, qui prend toutes ses formes. Vous inquiétez pas, on va sûrement arriver à faire retomber la responsabilité de l'accident sur autre chose que sur cet aspect-là. Puis il y a la SNCM.
On retiendra aussi la troisième grève, je crois, des avocats. Et cette fois-ci, c'est parce que ils ne veulent pas verser leur obol. Au budget du ministère de la Justice pour ce qui concerne l'aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle, c'est l'aide qui est un droit pour chacun qui est dans des conditions financières très difficiles de pouvoir accéder à la justice.
En clair, de payer les avocats qui... En clair, de payer les avocats pour ceux qui ne peuvent pas les payer. Quoi.
Oui.
Et on veut faire payer les avocats deux fois, finalement.
C'est comme les avocats, ils disent d'ailleurs, c'est pas les quelques sous. Il y a eu même des déclarations assez méprisantes, disant c'est pas les quelques sous qu'on serait amené à donner qui nous posent problème, c'est le principe. Bon, alors d'accord, c'est vrai dans le fond, mais l'État se désengage de tout et c'est tout à fait, c'est effectivement immoral que l'État s'en remette aux avocats pour boucher les trous.
Alors la SNCM, c'est l'impasse hein, pour le moment. C'est les périodes où ils font le plein de transport et de chiffre d'affaires. Et voilà, sixième, septième jour de grève. 1 million, paraît-il, de perdus par jour. 8 navires à quai. Et un gouvernement, enfin un ministre, Cuvillier, qui ne voit comme solution que le tribunal de commerce. Ce qui, pour les salariés, veut dire 1000 licenciements en plus des 500 déjà décidés. Et pratiquement une liquidation de l'entreprise. Quoi. Donc la grève continue, elle est dure et elle pose effectivement un problème pour le tourisme de l'île qui est aussi à cette période-là une grande richesse. Quoi.
Sinon, le mouvement des intermittents se poursuit un peu dans toute la France et naturellement partout où il y a des festivals de programmés. Et on peut dire qu'il y en a depuis les petites villes jusqu'aux grandes villes. Et ben, les intermittents, effectivement, ils étaient contents de trouver à travers la coordination de tous, c'est-à-dire chômeurs, précaires et eux-mêmes intermittents, un moyen de mener un combat global sur la politique d'austérité, notamment telle qu'elle est conduite par le gouvernement. Bon, ceci dit, il y a une pause. Après les différents mouvements très très durs qui ont bloqué des festivals, il y aura des interventions ici et là, plus ou moins dérangeantes pour les spectacles et les spectateurs et les spectatrices peut-être qui eux et elles disent qu'ils ont payé pour leur place. Alors, bon, est arrivée aujourd'hui une information qui, je ne sais pas si elle va détendre l'atmosphère, mais c'est la seule déclaration positive de Valls depuis 24 heures ou 48 heures, c'est de geler les trois prochains budgets de la culture. Ah, on ne touchera pas au budget de la culture, ça devrait augmenter normalement, parce qu'il y a toujours une petite inflation. Donc, mais au moins, on ne toucherait plus au budget de la culture. Ça, c'est bon, peut-être une, c'est une moins mauvaise nouvelle qui pouvait arriver ce soir.
Sur Notre-Dame-des-Landes, tu as des infos
qu'est-ce
un peu
que, sur les sujets, qu'est-ce qu'on pouvait encore aborder ouais.
Notre-Dame-des-Landes, tu as quelques infos sur ce qui s'est passé
moi, qu'est-ce que j'avais bien, le rendez-vous de Notre-Dame-des-Champs, ben, c'était...
Notre-Dame-des-Champs.
Des milliers de personnes se sont retrouvées avec les Verts en première ligne, très, très contents parce qu'ils n'étant plus au gouvernement, ils étaient à l'aise. On ne pouvait plus les accuser de faire le double jeu. Et aussi bien Duflot que Beauvais, ben, ils ont été très bien reçus dans ce rappel d'une bataille. On sait que pour l'instant, là aussi, les affaires sont au point mort, puisque Hérault avait décidé que on ne ferait rien aussi longtemps que toutes les décisions de justice ne seraient pas rendues concernant différents aspects de ce dossier. Ça peut durer longtemps.
Dis-moi, tu m'entends là un petit peu ou pas du tout?
Moi, je t'entends là maintenant,
oui. Normalement?
Oui,
bon,
oui.
Bah, tant mieux. Allez, parle-nous un peu d'Avignon. Si on avait prévu de faire quelques minutes, là, je pense que c'est le moment de le faire.
Oui, oui, c'est un peu dans la continuité de ce qu'on a dit sur la bataille des intermittents. Bon, Avignon, c'est donc, on va rappeler, deux festivals. Un festival très officiel qui s'appelle Le Hin, dirigé cette année par un grand homme de théâtre, metteur en scène, comédien, qui s'appelle Olivier Py, et qui d'ailleurs, dès cette première semaine, est lui-même présent avec une pièce qu'il a lui-même montée sur un lieu qui est nouveau, qui s'appelle La Fabrique A, et ça s'appelle Orlando ou l'Impatience, et on nous dit que c'est une pièce poétique et politique que personnellement j'espère pouvoir voir la semaine prochaine si c'est possible. Sinon on nous dit aussi que c'est facile à vérifier que le mauvais temps est de la partie. Alors bon, il y avait la mauvaise humeur des intermittents, mais il y a aussi le mauvais temps du temps tout court, et que des spectacles ont dû être écourtés ou annulés, et que quand il fait mauvais à Avignon pendant le festival, c'est pas très agréable. Le Hin, eh bien, c'est parti. Le Hof, pardon, lui, avec ses 1300 spectacles et son millier de troupes et comédiens, eh bien, il est installé comme il le fait tous les ans, et semble-t-il, là aussi, il y aura le débat sur l'avenir, et surtout pour obtenir que cette convention signée par les syndicats, certains syndicats, dont la CFDT et le MEDEF, soit abrogée. Et surtout, bon, ce qui a poussé à peut-être à intensifier le mouvement, c'est que le gouvernement a cru bon dès la semaine dernière d'apporter sa signature à sa manière à cet accord entre les partenaires sociaux. Et ça c'est alors qu'il aurait très bien pu attendre. Il avait tous les arguments pour différer sa signature au gouvernement, comme il le fait souvent, comme le font souvent les gouvernements. Eh bien, ils analysent tout en termes de rapport de force. Voilà ce qu'on peut dire. Eh bien, on aura sans doute l'occasion peut-être de revenir à défaut de pouvoir parler d'Avignon et de son festival pendant les semaines qui viennent, eh bien au moins de faire un bilan à la fin du mois de juillet, et puis de voir justement si le fait que les budgets de la culture seront maintenus, aura eu l'effet escompté, à savoir un désamorçage de la tension qu'on dit très visible à Avignon, mais on dit que c'est pas seulement Avignon, mais Avignon, c'est un symbole mondial, universel, on va dire, et une image forte planétaire.
Voilà, ben écoute Robert, je te remercie.
Peut-être ce qu'on peut dire.
On va faire une pause musicale et on va retrouver nos invités Audrey et Mathilde pour parler d'un événement culturel. Il viendra peut-être Avignonnais, pour le moment il est Lyonnais. Écoutez bien Radio Canus en 2.2 MHz, la plus rebelle des radios. Nous arrivons à notre rubrique culturelle pour parler de Tout le monde dehors. Tout le monde dehors, vous connaissez, c'est des manifestations multiples et variées, il y en a tellement que c'est pas possible de les citer, qui ont lieu pendant l'été à l'initiative de la mairie de Lyon. Et nous, ce soir, on va s'intéresser à un événement avec deux représentantes de l'organisme qui l'anime. C'est pas pour cette semaine, tant pis pour les déçus, faudra attendre un peu, mais vous pouvez noter sur votre agenda, je crois pas me tromper en disant que c'est le 22 juillet. Oui, c'est ça, que dans le Clos Saint-Benoît, elles vont vous expliquer où c'est. Je pourrais le faire aussi, mais puisqu'elles sont là, autant les faire travailler un petit peu plus. Donc, je vous donne la parole pour nous expliquer ce que l'association des Lézards Dorés organise le 22 juillet au Clos Saint-Benoît dans le premier arrondissement. Bonsoir.
Alors, le Clos Saint-Benoît, c'est un endroit qui est situé en contrebas d'une belle falaise cristalline qui est près du quai Saint-Vincent, rue Saint-Benoît. Et pour ceux qui prennent le bus, c'est l'arrêt Saint-Vincent. C'est un endroit qui se prête merveilleusement bien à des concerts en acoustique avec un aspect un petit peu excentré, je dirais même No Man's Land. Et qui mérite vraiment d'être vu. Et grâce aux voûtes, les manifestations peuvent même être maintenues en cas de pluie. Mais ce n'est pas ce qui nous arrivera, on aura du soleil.
L'optimisme fait vivre. Hein, c'est bien. Oui, à l'année, c'est un jardin public de Lyon, discret, peu connu, mais qui peut être visité tous les jours de la semaine, toute l'année. Et il se prête bien à une organisation comme ça, de festivités, dans un cadre calme, finalement.
Hein. C'est ça. Alors, la journée va se dérouler de la manière suivante. Donc, ce sera de midi à minuit. Et on commencera à midi par un repas partagé. Donc, les gens pourront venir et nous faire goûter leurs meilleures recettes. Toute l'après-midi jusqu'à 21h, donc plus même que l'après-midi, non-stop, il y aura un espèce jeu en tout genre pour tout le monde. Et donc, de 14h à 18h, on aura un très beau programme familial, artistique, ludique, avec divers ateliers. Alors, on pourra découvrir les arts du cirque, On pourra s'initier à la batterie et à diverses percussions. Et puis même si on a des courageux, ceux qui auront appris à se servir d'une batterie pourront participer et accompagner musicalement le ciné-concert du soir. Mais il faut être très courageux. Et on aura également un jeu de piste.
Oui, effectivement, un jeu de piste.
Parlez bien dans le micro,
qui
plus possible.
Sera destiné aux enfants et à leurs parents. Le parcours va durer environ entre 30 et 45 minutes. Alors, il faudra venir nous voir au début du parcours. On vous donnera des informations et puis un bulletin à remplir avec vos noms et forcément la solution à la fin. Qu'il faudra nous remettre du coup à la fin et on tirera au sort trois gagnants.
C'est à quelle heure
Et ben en fait ça dure toute l'après-midi entre 14h et 18h, il n'y a pas de session, c'est libre, c'est un parcours libre.
C'est les parents qui vont être contents si vous occupez des gosses tout l'après-midi.
Après le jeu de piste dure pas. C'est-à-dire pas 4 heures, mais c'est faisable pendant ces 4 heures-là.
Très bien.
Et donc après le jeu de piste à 18h, il y aura un très joli spectacle de cirque et musique qui s'appelle Sur le banc, de la compagnie Girouette. Et c'est en fait une rencontre burlesque entre deux personnages un petit peu perdus dans la vie. C'est un spectacle drôle et en même temps touchant. Et donc, il y aura du cirque, des claquettes, du tango et des valises.
Voilà, et ensuite, on poursuivra la soirée et on la clôturera par un hilarant et enthousiasmant ciné-concert qui se nomme Musique pour Buster, avec trois courts-métrages de Buster Keaton, accompagnés par notre talentueux pianiste Jean-Claude Guerre, très connu à Lyon et à la Croix-Rousse particulièrement, et un étonnant batteur qui se nomme Erwan Bonin. Voilà, donc cette journée est accessible à tous.
C'est gratuit.
C'est gratuit, tous les événements de Tout le monde dehors sont gratuits. Et il y aura bien sûr une petite buvette et une petite restauration pour ceux qui ont un petit creux durant la journée.
Donc c'est pas mardi demain, c'est pas mardi la semaine prochaine.
Mais
c'est
le suivant. Et puis vous nous connaissez aussi avec nos balades musicales et surprenantes d'itinérance qui auront lieu par contre là beaucoup plus tard, le 16 août, dans le 5e arrondissement. Je pense pas prendre plus de temps pour vous expliquer parce que ça fait la 9e année qu'on les connaît. Et oui, ce sera dans le cinquième.
Vous pouvez dire en deux mots. Donc, on accompagne des musiciens sur un parcours.
C'est un guide qui accompagne le public avec des surprises musicales surprenantes du groupe Itinérance qui se compose de 4 musiciens.
Donc les musiciens ne se déplacent pas, là. C'est le public qui se déplace.
Le public se déplace, guidé par un comédien. Et le départ se fait place Saint-Irénée dans le 5e. Et comme d'habitude, on ne connaît pas l'arrivée. Et c'est une petite déambulation, pas sur des kilomètres. Et il y a 2 départs, un à 17h et un à 19h. Et il faut compter 1h10 de balade.
Tout le monde dehors, le Clos Saint-Benoît, c'est la première année que vous faites une animation là où il y a déjà eu.
Alors, on a effectué les balades musicales justement au Clos Saint-Benoît l'année passée. Et c'est du coup, après ces manifestations-là, qu'on s'est rendu compte que l'endroit se prêtait vraiment à des concerts en acoustique. Et donc, du coup, on a développé un autre projet dans ce lieu-là. Voilà, donc cette année, c'est pas les balades dans le Clos Saint-Benoît, c'est autre chose. Mais on garde quand même nos balades dans le 5e.
Et le groupe, enfin l'organisme dont vous occupez, le groupe Itinérance, et d'autres, il y a d'autres choses cet été qui se passent quelque part, pas forcément à Lyon.
Alors non, on aura uniquement ces deux événements, le 22 juillet et le 16 août.
Et à la rentrée?
Alors après, ça se poursuit, mais pas dans le cadre de Tout le monde dehors.
Non.
Là, c'est la compagnie Les Arts Dorés qui continue ses spectacles et qui vit à travers la France dans les lieux où les programmateurs désirent nous programmer.
sur Lyon, pas de rendez-vous pour le moment à donner.
Non, pas sur Lyon. On sera le 30 et 31 juillet avec un spectacle piano-marionnette. Mais là, ce sera Saint-Étienne-le-Molard, dans la Loire, au château de la Bâtie d'Urfé.
Voilà, donc on ne saurait trop recommander à nos auditeurs de participer à cette journée du 22 juillet. Il y a un maximum de 400 personnes sur l'ensemble de la journée, donc il y a moyen de faire, compte tenu qu'il y en a qui sont partis en vacances. Et puis c'est pour les enfants, c'est pour les adultes, et c'est de, je pense qu'on peut dire, la musique, on sait qu'elle est de qualité, et je vous fais confiance pour que les autres activités aussi. Voilà, bah écoutez, je vous remercie donc, et puis rendez-vous l'année prochaine peut-être pour Tout le monde dehors 2015.
Merci.
Voilà. Un petit, ah oui, la musique, j'ai oublié de présenter, on va la jouer à nouveau un petit peu. C'est justement la musique de Jean-Claude Guerre, qui, lorsqu'il accompagne les films de Buster Keaton en direct. Robert, oui, tu voulais ajouter quelque chose.
Oui, simplement, comme c'est la période des vacances et que l'on soit avec emploi, sans emploi, retraité, on a droit à des vacances. Et moi, je voulais simplement dire, à la plage ou à la montagne ou simplement chez soi, on peut reprendre toute la collection de ces derniers mois du monde diplomatique, parce que c'est vraiment une manière de faire la synthèse d'une actualité internationale très, très brûlante. Et deuxième chose, je voulais signaler, parce que je viens de le relire, un bouquin de Cornelius Castoriadis. Bon, on ne présente plus Cornelius Castoriadis, c'était le contenu du socialisme, et il avait fait, qui est en édition 10-18, et qui a fait une petite brochure à part, qui s'appelle Autogestion et hiérarchie. Ah, voilà un grand thème très d'actualité, Autogestion et hiérarchie, et c'était publié par les éditions Grains de Sable. Je rappellerai simplement que Cornelius Castoriadis est le fondateur en 1949, de socialisme ou barbarie, avec Claude Lefort. Voilà.
Voilà, ben cette semaine aussi, je voulais vous dire que c'est les fêtes escales à Vénissieux, du 11 au 14 juillet, au Parc du Pic, avec des programmations assez sympathiques, en particulier le vendredi 11, une soirée chanson qui se termine par une prestation des têtes raides, avant des fourmis dans les mains, la Maison Tellier. Et puis le samedi 12, Musique du Monde, 18h30. Le dimanche 13, Danse Urbaine. Donc il y a tout un programme avec un pique-nique républicain le lundi 14 juillet à 12h et le grand bal à 19h30 avec Foro de Rebecca, brésilienne musique, et la guinguette à roulettes. Voilà, ce Canu Info se termine. Il sera rediffusé demain matin à 8h. Nous vous souhaitons une bonne soirée à l'écoute de Radio Canu. Vous pourrez aussi le retrouver normalement si ma clé USB ne joue pas de mauvais tours, comme elle me le fait sournoisement des fois. Demain sur Internet, bien sûr. Et puis, ne quittez pas l'antenne. Nous allons aborder notre série d'émissions Vendémiaire autour du thème de 14-18. Bonsoir.